La Constelación.
Bonjour à tous, bienvenue dans la conspiration des planches, oui, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus. Oui, c'est encore les vacances pour les théâtres. Les saisons ne font que reprendre avec frémissement pour le moment. Donc on attend d'avoir un petit peu de matériel sous le bras pour venir vous le présenter de manière critique comme à notre habitude. Tous les mercredis 19h, 19h30 et jeudi à partir de 13h30. Ce sera à partir donc de la semaine prochaine que le cours normal de cette émission reprendra. Alors on voulait commencer cette saison un petit peu plus tôt et vous faire partager le meilleur de la conspiration des planches, pas un best-of de critiques, mais des instants un petit peu plus spéciaux que nous avons eu. En effet, parfois nous avons quelques invités dans ces émissions, vous le savez, vous qui êtes fidèles, et ils nous font l'honneur de nous présenter un petit extrait des spectacles et des textes qu'ils présentent sur les scènes bruxelloises, des lectures qui sont toujours un moment particulier, un moment comme suspendu et de partage aussi avec l'auditeur, des textes qui nous invitent également à voyager. Et on va commencer tout de suite. Je vous invite à prendre la direction de l'Iran, qui était au centre d'un festival organisé à Tour et Taxi, un festival intitulé Untitled, qui nous proposait une série de lectures de pièces iraniennes au cœur de Tour et Taxi. Emmanuel de Candido et Philippe Beheit étaient venus le 12 décembre 2012 pour nous parler de ce festival et nous expliquer comment c'était monté le projet, le choix des textes, comment s'était-il effectué et quel était l'intérêt de l'écriture iranienne aujourd'hui. Et il nous avait proposé une lecture intéressante d'une pièce intitulée Untitled, justement, et sous-titrée « Je suis une créature Twitter ». Alors, 10 pas, c'est la distance qui sépare la jeune Neda de la balle qui causera sa mort. 10 pas, c'est le temps qu'il faudra pour qu'elle devienne une créature de la toile internet, que l'image de son visage ensanglanté fasse le tour du monde et devienne un symbole de la contestation iranienne. 10 pas qui ont été mis en mots par Mohamed Reza Erhad pour entraîner le public au milieu des manifestations qui secouent alors Téhéran à la rencontre de quelques visages hagards ou furieux qui apparaissent dans la fumée des gaz lacrymogènes. Emmanuel De Candido et Philippe Beheit nous ont proposé l'un de ces pas, le 9e, celui juste avant le moment fatal. On réécoute tout de suite ce 9e pas.
Le 9e pas. Il ne me reste plus qu'un pas à faire et me voilà à présent tout proche de là-bas. Je peux même sentir une chaleur immense se dégager de ce point. Je peux entendre les failles de la terre qui tremblent et grondent dans ce point précis. Je peux voir une fille qui est debout, là, à garde, et qui regarde autour d'elle sans comprendre ce qui lui arrive. Elle ne peut pas comprendre pourquoi elle reste là, à ce point précis, à cet instant précis. Elle ne sait pas pourquoi ce parcours, ces 10 pas doivent commencer par la plus vieille voie de sa vie et forcément, écoutez-moi bien, forcément se terminer là, à ce point précis, à cet instant précis. Elle ne peut pas comprendre la logique de tous ces événements, leur connexion. La seule chose qu'elle comprend, c'est qu'elle est là, qu'elle est seule et qu'elle a peur. Et c'est la seule vérité qu'elle peut comprendre à ce moment précis. Et moi, je la connais, cette fille. Je sais qu'elle est à garde. Je sais qu'elle a peur. Je sais qu'elle est seule. Elle est là, debout, dans cet endroit, où elle attend depuis des années. Elle m'attend depuis des années. Je dois faire ce dernier pas. Je dois aller la rejoindre là-bas, lui prendre la main et lui dire « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Alors elle se retourne, elle me regarde et me dit en tremblant « N'aie pas peur, je suis avec toi ».
Et voilà le dernier pas. Le 10e pas, le point précis. Je suis maintenant debout, ici. Tout est silence, un silence absolu. Toute la terre retient son souffle et me contemple, moi qui peux désormais entendre les tremblements secrets de la terre, les tectoniques qui se meuvent, le sifflement du vent qui te mordit la peau, la voix morte de tous les morts. Le hennissement d'un cheval au loin et le croassement des corbeaux et le cri des oiseaux dont l'espèce a disparu et la plainte silencieuse des baleines qui se jettent sur la plage. Et la respiration sourde de tous les humains et le bruit sourd de l'incendie. Le sifflement strident d'un morceau de plomb qui se dirige à toute vitesse en ma direction. Je dis à mon père, « Papa, j'ai mal. Je me suis fait une égratignure à la main. Ce n'est pas grave, ma petite fille. La douleur, cela fait partie de la vie. Et ce n'est rien, la douleur, d'une égratignure. Il y a bien pire. » Et voilà que ce morceau de plomb, avec son sifflement sourd, se dirige inexorablement en ma direction pour m'apprendre la signification ultime de la douleur. Je n'ai rien d'autre à dire. La suite, c'est ce garçon qui n'est plus qu'un numéro, D78-671, qui m'a filmé et qui me fera rejoindre d'un seul clic le monde virtuel, votre monde virtuel. Quant à moi, à cet instant précis, où le sang commence à couler par tous mes orifices, j'entends cette dernière voix, la plus ancienne voix de ma vie. « Papa, où est la rue ?»« Papa, c'est encore loin la rue ?»« Papa, moi j'aime beaucoup la rue. »« Papa, au lieu de la maison, on ne pourrait pas aller vivre dans la rue ?»« Papa. »
C'était Emmanuel Descandido et Philippe Haidt pour un extrait de Untitled, Je suis un animal Twitter, qui était proposé donc en lecture au festival Untitled, un texte de Mohamed Reza Irad et qui nous emmenait au cœur des manifestations de Téhéran de juin 2009, dans la peau de Neda, cette jeune fille assassinée par, lors d'affrontements avec les forces de l'ordre iranienne, une répression policière brutale qui avait parcouru le monde en images, notamment avec cette image de cette jeune Neda, le visage ensanglanté. Un petit peu avant de prendre la direction de l'Iran, on était parti également dans nos voyages théâtraux du côté d'Istanbul. Le festival Sounds of Istanbul s'est installé du côté de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Et le 5 décembre 2012, plusieurs personnes étaient venues nous présenter la programmation de ce festival qui en était à sa troisième édition et qui reviendra peut-être prochainement. Deux comédiennes, Sibel Dinsa et Ilha Sunmez, comédienne, ont travaillé et ont présenté leur work in progress de Voilà la tête, voilà le tronc, voilà les ailes, de l'écrivaine stambouliote Sevim Burak. Un texte qui nous parle d'Ange, une jeune veuve désœuvrée qui a déjà sombré dans la folie. Cinq personnes peuplent son univers où se mêlent tour à tour le désir de beauté, le désir de l'autre et le désir de la mort. De son repas anthropophage avec Rose à son amour naïf pour un avocat, un photographe l'immortalise dans ses moments de songe. La présence du mari mourant et celle d'un marbrier de cimetière rappellent à Ange son irréversible destin. Nous allons écouter un extrait justement de ce spectacle qui nous était offert par Sibel Dinsa et Hilal Sunmez.
Je m'appelle Ange, j'ai 13 ans. Je suis la bonne de Zia Bey, tout le monde me connaît. On est venu me chercher à Manlik. On m'a placé comme enfant adopté à Istanbul, sur la colline de Kuzguncuk. On m'a donné à Zia Bey. On m'a rasé les cheveux.
Viens me rejoindre, viens donc.
Je ne peux pas venir, je vais Zia Bey. On m'a amené dans cette maison. Le vieillard barbu, c'était Zia Bey et cette maison était à lui. On m'a dit, Zia Bey vivra 100 ans et lorsqu'il sera mort, cette maison te reviendra. Il t'épousera et toi, tu veilleras sur lui. Je suis la servante de Zia Bey, je ne quitte pas la maison.
Regarde, là je t'appelle, nous nous sommes déjà mises d'accord à l'avance. Nous avons dit à Zia Bey que nous allions à Üsküdar écouter le chantre sur Melroja. On a monté ce mensonge toutes les deux, il l'a gobé, viens, n'aie pas peur.
Mais Zia Bey est là, il est à côté de moi.
Mais non, il n'est pas là, il est couché. On a préparé le pique-nique hier soir, on a pris le gramophone, la corde pour la balançoire, le café, le thé, le sucre, on a mis les nappes dans le panier et on a caché dans le fond quelques bouteilles de raki à 49 degrés. Tu vois bien, c'est nous là, tu te souviens ?
J'ai oublié.
Enfin, Dieu soit loué, tu as fini par venir. Cela fait au moins une heure que je t'attends, j'étais sûre que tu viendrais.
Comme ils sont grands ces arbres, qu'est-ce que c'est ?
Des pistachiers, c'est ici que nous nous sommes donné rendez-vous, toi et moi. C'est curieux, la clairière s'est étendue, les arbres ont poussé. Quand est-ce que nous y sommes venus ?
Il doit y avoir à peu près 35 ans de cela.
Et maintenant, où allons-nous?
Par là. On va arriver à Bardarbashi. On prendra l'avenue du tramway et on la descendra. Tiens, voilà Kouchtili. On aperçoit la clairière tout en bas.
On l'entrevoit de loin. Nous ne sommes encore qu'à Fustekadje. Altunzade est derrière nous. L'avenue du tramway est devant nous. Il faut la descendre. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Mais pourquoi t'es-tu arrêté? Tu traînes derrière.
Quelle vue! Si on s'asseyait là un instant. Comme cet endroit me plaît. Cela faisait longtemps que je ne t'ai pas venue. Il me semble sentir la brise souffler sur mon visage. Tout d'abord légère, légère. Puis de plus en plus forte. Comme tout a changé, tout semble en ruine. Il ne reste plus personne ici. Tout le monde est parti. Quel désert. Il y a une ombre là-bas. C'est Ziabé, c'est lui. Est-ce que c'est moi qu'il cherche? Mais oui, le voilà qui vient.
Non, 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 il s'en va. Il nous a cherchés, mais il ne nous a pas trouvés. Ne crains rien.
C'est ça, il s'en va. Il est parti. Au revoir. Au revoir, Ziabé, au revoir.
Au revoir.
Il ne m'a pas entendu.
Eh bien, en avant. Je te prends par le bras. Là, nous avons bien avancé.
Où sont nos demandes?
Tu n'es pas folle déjà que tout le monde nous regarde. Serre-moi bien le bras. On va traverser tout droit. Ne ris pas. Ce n'est pas le moment.
Ne t'en fais pas. Je m'accroche à ton bras. Je ne te lâche pas d'une semelle. Tu me dis de ne pas rire, mais toi, tu ne t'en prives pas.
Ils me prennent pour un homme et toi, ils te prennent pour une femme. C'est ça qui les étonne.
S'ils ont envie de regarder, ils auraient tort de s'en priver. Est-ce qu'ils se trompent vraiment?
Regarde, moi je suis l'homme et toi la femme. Nous venons juste de faire connaissance. Je te fais la cour. Nous allons passer une agréable journée. Je suis ton cavalier, tu es madame. Nous allons danser. Puis, nous nous étendrons sous les arbres et nous pique-niquerons.
Voilà un tramway qui passe. Ling, ling, la cloche, nous nous arrêtons.
Le tramway est passé, nous repartons.
En voilà un autre, et encore un autre. Mon chéri, où vont-ils ainsi tous ces gens, dis-moi?
Au café chantant de Ksukle. Dis-leur bonjour, agite la main.
Allez, allez, amusez-vous bien. Les voilà passés. Fais-leur au revoir toi aussi, il y a peu de chance pour qu'on les revoie un jour.
Au revoir, au revoir. Les voilà partis, envolés. Il n'y a plus de tramway, on peut traverser. Enfin, nous voici de l'autre côté.
Il y a quelqu'un qui nous suit. Tiens, tu vois, celui-là.
Dans un instant, il sera près de nous. Attends, ne regarde pas tout de suite. Tu regarderas quand je te le dirai.
T'en fais pas, je ne regarde pas.
Maintenant, tu peux regarder. Il nous suit?
Il nous suit.
Nous descendons la côte, de plus en plus vite, nous courons.
Il court avec nous.
Nous ralentissons.
Il ralentit, lui aussi.
Nous nous arrêtons pour rattacher nos lacets.
Lui aussi.
Nous attendons.
Lui aussi. Est-ce que nous savons comment il s'appelle?
Je ne me souviens plus de son nom, c'est bizarre. J'en ai en tête celui du photographe qui a pris ses photos.
Oh, le photographe, c'est après, pas tout de suite. D'abord, on fait connaissance avec l'avocat. Pendant que nous attachons nos souliers, il s'approche de nous. Fais attention, le voilà!
Que dit-il?
Où allez-vous comme cela, jolie colombe?
Et nous, qu'est-ce qu'on répond?
À la clairière de Kouchtili, nous amuser.
J'y vais justement, moi aussi. Puis-je vous accompagner?
Joyeux oiseau, couple de rossignols, emmenez-moi avec vous, je vous en prie.
Il sort sa carte de visite et nous l'attend. Il y a son nom dessus, je me souviens, Muhittin Bey.
Qu'est-ce qu'on lui répondait, nous? Allez, dis-le aussi.
Nous lui disons que nous nous sommes soustraites à la vigilance des hommes pour venir là. Et que nous répond-il alors? Voyons si tu te souviens.
Tu penses si je me souviens? C'était si drôle. Pour deux roses, il faut un rossignol. Je serai celui-là.
Et le corbeau, le corbeau. J'éclate de rire chaque fois que je m'en souviens. Toi, tu lui avais répondu un corbeau pour deux roses.
C'était donc Sibel Dinser et Hilal Sönmez pour cet extrait du spectacle, en tout cas du work in progress qu'elle préparait à l'époque sur le texte qui s'intitulait « Voilà la tête, voilà le tronc, voilà les ailes » de l'écrivaine stambouliote Sevim Burak. Des lectures toujours faites en direct dans nos émissions. petite pause musicale, mais qui a marqué quand même un certain moment important de cette année théâtrale écoulée. Rappelez-vous, c'était déjà en novembre 2012, coup de tonnerre dans le secteur des arts de la scène, puisque le Conseil de l'aide aux projets théâtraux a vu son enveloppe amputée de 45%, passant ainsi à 700 000 euros. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une pompe dans le milieu artistique. Avec cette diminution, ce sont de nombreux projets théâtraux ponctuels qui ne pourront se créer. Les compagnies sans convention, c'est-à-dire sans un accompagnement financier pluriannuel, se sont alors senties vraiment menacées. Discussion avec la ministre de la Culture, Fadila Lanan, qui a dit vouloir protéger l'emploi dans les lieux sous contrat programme. Malheureusement, l'emploi créé par les autres créations est également mis en danger. Il y a eu de nombreuses négociations, des discussions. Une piste de sortie a été trouvée, mais il reste encore un bilan à établir. C'est celui de cet ajustement pour voir s'il a vraiment porté ses fruits. Pour l'occasion, l'artiste et réalisateur sonore Guillaume Istas avait créé un petit morceau musical en remixant un discours de Michael Delaunoy, directeur du Rideau de Bruxelles et aussi représentant de la concertation permanente des employeurs des arts de la scène, qui s'était d'ailleurs mobilisé pour protester contre ces coupes budgétaires. Voici donc le morceau qu'il nous avait proposé.
Madame la ministre, est-il accepté, madame la est-il accepté, est-il accepté, est-il acceptable, est-il acceptable, madame la ministre, est-il accepté, madame la est-il accepté, est-il acceptable, madame la ministre, d'entendre certains directeurs d'institutions prétendre qu'il n'y a plus chez nous de jeunes metteurs en scène valables? Ces jeunes ont perdu toute conscience politique, idéologique, toute audace esthétique, toute radicalité. Est-ce acceptable? Est-il acceptable que de façon quasiment systématique, les directeurs d'institutions théâtrales restent au même poste durant 40 ans, quand les metteurs en scène, chorégraphes, acteurs, danseurs, scénographes, éclairagistes, costumiers, maquilleurs sont engagés par ces mêmes directeurs pour 3, 2, voire 1 mois? Cette situation répond-elle aux idéaux progressistes, démocratiques que les programmes de saison rédigés par ces mêmes directeurs nous livrent invariablement chaque année? Est-il acceptable pour un metteur en scène, pour une équipe artistique, de s'entendre éternellement dire et redire et redire et redire et redire et redire ceci est trop compliqué, ceci est trop violent, ceci est trop sombre, ceci n'est pas assez drôle, ceci n'est pas pour mon public? Est-ce acceptable? Le public appartient-il au directeur d'institution? Le public doit-il être protégé? Le public est-il adulte? Le public doit-il être contrôlé? Est-il acceptable d'entendre des directeurs d'institutions de premier plan prétendre qu'il n'est pas facile de trouver de jeunes acteurs valables sortis de nos écoles? Ces propos sont-ils acceptables? Ces propos sont-ils raisonnables? Qu'en pensent les metteurs en scène qui emploient des acteurs? Qu'en pensent les metteurs en scène étrangers qui emploient des acteurs de notre communauté? Qu'en pense le jury du Festival de Cannes? Est-il acceptable qu'après 10, 15 ou 20 années d'expérience dans l'enseignement de l'art dramatique, les artistes pédagogues continuent à émarger à la même commission d'aide aux projets, à laquelle émargent les artistes qu'ils forment? Est-ce acceptable? Est-il acceptable? Est-ce démocratique? Est-ce acceptable? Acceptable? Pourquoi? Est-il acceptable? Est-il acceptable que...
C'était donc Guillaume Istas et son remix du discours de Michael Delaunoy qu'il nous avait monté, notamment à l'occasion des protestations contre les coupes budgétaires à la commission d'aide aux projets théâtraux. On continue évidemment dans cette conspiration des planches notre petit parcours parmi les lectures qui ont jalonné les différentes émissions. Et en fin d'année, en fin de saison, on a l'habitude de recevoir souvent des étudiants qui, en fin de parcours, montent sur les scènes, justement, à l'invitation de leur école pour proposer quelques petites créations. En juin 2012, l'INSAS n'a pas dérogé à cette règle en envoyant ses ouailles sur les scènes bruxelloises on avait reçu en studio à l'époque, rappelez-vous, Arthur Houdard, jeune auteur qui était venu présenter la mise en voix de son propre texte « Bonjour, on est un tsunami ». Tout à fait original, que je vous invite à réécouter.
Un soir, on dort dans une grange. Un grand espace à nous tout seuls, rempli de bottes de foin. On boit un peu, on se jette dans les meules, on grimpe aux étages, on invente des acrobaties, on fout un bordel pas croyable. On y met toute notre énergie de crétin affamé d'idiotie. Il n'y a que cerveau qui ne fait rien. Il est resté en bas tout pensif, il regarde une fenêtre allumée dans la ferme en face. Il soupire dans l'entrebâillement de la grande porte de bois. Faut dire que ce soir-là, on l'a pas beaucoup vu. Il a passé son temps à discuter avec Epona, la fille cadette du gentil couple qui nous accueille. Chacal avait failli se jeter sur elle comme il le fit sur les noix de cajou, mais on avait su l'arrêter à temps. Hop, 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 hop. Les gars ! Mito, qu'est-ce que vous faites ? Range tes griffes. Range tes griffes. De quoi ? Quelles griffes ? Ça va, laissez-moi aller la voir, je lui ai même pas dit bonjour. Calme-toi, fais moins de bruit. Regarde.
Mais quoi ?
Cerveau. Bah ouais, je le connais. Espèce de crétin, regarde ses yeux.
Putain, c'est vrai, mais qu'est-ce qui lui prend ?
Bon, vas-y, Guarana, explique-lui. Bon, bah tu vois, Chacal, tu vois bien que Cerveau est complètement dingue de cette fille, hein, et tu sais qu'il est timide, quoi. Ce serait bien qu'il essaye vraiment de se mettre à la draguer, tu crois pas ?
Bah, c'est très bien. Il faut qu'il essaye, en quoi ça me regarde ?
Non, mais tu vois, ce qu'on essaie de te dire, c'est que ce serait sympa que tu t'en mêles pas, tu vois ?
Quoi ? Que je m'en mêle pas ?
Ouais, tu vois, que tu lui laisses le champ libre, en quelque sorte, tu vois ?
Quoi, je pourrais rien faire ?
Ben, ce serait bien.
Putain, non, ça fait chier, les gars ! Il faut qu'il le sache ! Les meufs, c'est la compète, j'en ai rien à foutre ! Faut qu'il apprenne à se battre ! On sera pas toujours là pour lui laisser les meufs, quoi !
Bon, Chacal, écoute-moi, tu le laisses faire, c'est pas négociable, sinon je te secoue.
Mon gars, c'est abusé. Bon, ok, je dis rien, d'accord.
Super, mais tu promets de rien faire, hein ?
Ok, ça va.
Tu lui fais pas de clin d'œil.
Non, tu te frottes pas contre son pied.
D'accord. Et aussi, tu passes pas à côté d'elle en soulevant un bras comme ça pour lui faire sentir ton odeur virile.
Mais mytho, putain, mais les gars, je fais jamais ça.
Ok, pardon, c'était pour vérifier. Bon, ça avait pas trop mal marché. Cerveau était métamorphosé. Pour vous dire, ça nous a fait bizarre. Il n'a rien dit de politique. Il n'a jamais dit d'un objet rouge qu'il était particulièrement joli. Il n'a même pas pensivement siffloté l'international en fin de repas comme à son habitude. Vers 22h, les parents d'Epona nous ont laissés et on a continué à discuter avec elle dans le jardin. Cerveau écoutait la jeune Epona avec intérêt et lui parlait avec sa voix la plus douce. On était fiers de lui, un vrai gentleman. Et puis au bout d'un temps, leurs mains sur les marches où ils étaient assis commençaient à se rapprocher et elle se mit à lui parler de sa passion pour l'équitation. On s'est dit « Merde, c'est foutu !» Mais non ! À notre grande surprise, Cerveau écoutait encore, subitement passionné par ses récits équestres. Ils échangeaient tous deux sur le dressage, le brossage, les petits noms qu'on donne aux chevaux.
« Ma préférée, c'était Noisette. »
Qu'elle était têtue, mais c'était ma préférée quand même.
Ah oui, évidemment, je peux comprendre. Mais elle a été gravement malade.
Oh non, flûte.
Mais si, on n'a rien pu faire et on a dû abréger ses souffrances.
Pauvre Noisette.
Pour moi, c'était comme perdre une sœur, tu vois.
Ah, bien sûr, je comprends.
Et toi, Chacal, c'est ça ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Hein ? Moi ? Rien, franchement, meuf, ça m'intéresse pas.
Ah bon ? J'aime bien ça. T'as un petit côté rebelle, toi.
Putain, Chacal, arrête ! Qu'est-ce que tu fous ? Mais j'y peux rien, merde ! J'ai essayé d'être froid et l'aime bien.
T'es un peu le genre... caïd de la bande, non ? T'es musclé ?
Oh putain, qu'est-ce que je réponds ? Non, je suis pas musclé. Oh, c'est nul !
Il est modeste, c'est mignon.
Arrête, Chacal ! Mais elle est folle, les gars, là, j'y suis pour rien.
Et tu fais quoi, sinon, dans la vie ?
Je dis quoi ? Les gars, je dis quoi ? Tu dis croque-mort ou éboueur ? Non, pire, trader !
Ben, ne sois pas gêné comme ça.
Je suis préparateur de viande dans une boucherie chevaline.
Quoi ? Mais c'est dégoûtant. Viens, Cerveau, on va parler plus loin. Oui, je te suis. Merci, les gars. Je trouve ça dégueulasse qu'à notre époque, on puisse encore manger du cheval. T'es pas d'accord ?
Ah, si, complètement. Moi-même, vois-tu, je ne trouve pas ça très goûtu.
C'est bon ? Ils sont partis.
Bravo, Chacal, ça, c'était bien. C'était bien trouvé, ça.
T'es, les gars ! Oh, je me suis battu, là.
Arthur Houdard, donc, avec un extrait de son spectacle, de son texte intitulé « Bonjour, on est un tsunami » qui avait pu être découvert du côté du festival Out. Ça, c'était en juin 2012. Et oui, déjà beaucoup plus proche de nous. Outre ces moments d'humour et de transformation, on a vraiment aussi des moments intenses, vraiment tendus. C'est un peu le cas aussi du spectacle Exécuteur 14 qui était proposé en fin de saison du côté de l'espace mag. Rachid Benbouchta a interprété ce seul en scène, écrit par Adèle Hakim, dans une mise en scène d'Abdelmalek Kadi. Ça nous racontait l'histoire d'un conflit au Moyen-Orient, entre ethnies, sans véritablement situer géographiquement ce conflit. Il nous renvoyait en tout cas à des réalités bien connues. On écoute tout de suite l'ouverture de ce spectacle que nous avait proposé à l'époque Rachid Benbouchta.
Non, j'étais pas cruel quand j'étais petit. Les grenouilles, je leur coupais pas les pattes arrière avec des cailloux. J'enfonçais pas une cigarette allumée dans la gueule des lézards verts. Leur ventre, je l'ouvrais pas pour voir ce qu'il y a dedans. Et jamais j'ai arraché les ailes des mouches, même si ça leur fait pas mal. J'avais même très peur des chats. Ils sont cruels, je pensais. Avec les longues moustaches, leur tête triste et attentive, les yeux perçants, les griffes terribles. Comment ils sont tranquilles. Et tout à coup, ils se mettent en marche pour tuer, alors rien ne les arrête plus. Et maintenant, tout ça est si loin. Lost pour toujours. J'ai plus peur des chats. C'est comme dans un temps d'avant la création. Au début, c'était un jeu. Bah oui, un jeu de gamins qui veulent être grands, c'était juste pour rire. Tirer en l'air avec des clashings pour faire peur à maman ou à petite amie. Et seulement aux grandes occasions. Le jour de l'an, la mort, le mariage, la naissance. Pour prouver qu'on était grand maintenant, qu'on n'avait pas peur du bruit, qu'on savait faire cracher le feu à la ferraille. C'était surtout fierté de le faire. C'est beau les salves. Les giclées de flammes qui déchirent le ciel. Ciel. La tête de maman effrayée et sévère. Et petite amie qui se bouchait les oreilles. Et puis ça nous permettait d'apprendre. Les armes, pour les manier, il fallait savoir comment. On ne sait jamais ce qui va arriver. Tout ce qu'on savait, c'est que les enjeux étaient importants, complexes, multiflammes. Des tentacules d'enjeux entre les clans. Et vu de dehors, comme ça, c'est chaos, les enjeux peuvent paraître mystères, mais vécus, ils le sont beaucoup moins. Ils font partie de nous, de l'être qu'on forme. L'enjeu perçu le plus clair, parce qu'il est partial, est celui qui concerne directement l'être qu'on forme. Quand on appartient à un clan, on comprend. Moi, c'est le clan des Adamites. Le meilleur de tous. C'est de lui qu'est issu le chef suprême, depuis toujours. J'aimais être Adamite. Je pouvais rêver. J'avais une chance, petite mais vraie, de devenir un jour chef suprême de la cité. Satisfaire les ambitions des parents, maman surtout. C'était un privilège, être Adamite.
C'était Rachid Ben Bouchla, donc avec un extrait d'Exécuteur 14. L'impressionnant, on est toujours impressionné lors d'un exercice de lecture comme ça qui se passe devant nous, de la transformation faite par le comédien pour vraiment incarner son personnage alors qu'il n'a pas autour de lui les éléments de décor, la scène, bref, l'environnement qui lui permet habituellement d'incarner ses personnages de manière plus aisée peut-être. Et pourtant, les lectures passent et les transformations se font également. C'était le cas de Stéphane Subé qui venait nous présenter son spectacle No Sport, en référence à Winston Churchill, qu'il incarnait sur scène pour nous montrer l'homme derrière le monstre politique.
Clémy, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle ? La mauvaise ? Toby a pris trop de bains. Il a attrapé une pneumonie. Il n'arrive plus à prononcer une seule injure. La bonne nouvelle, Adolf Hitler s'est suicidé dans son bunker du Reichstag à Berlin. Je n'ai eu qu'une personne à haïr dans ma vie, c'est lui. Mais encore, c'était purement professionnel. Je risque de m'embêter un peu. Étape suivante, gagner les élections. Je suis sûr que le peuple qui m'a suivi dans la bataille me suivra dans la paix. Et le premier qui se dresse contre moi, je le dresse de nazi ou de petit chef de la Gestapo. Et ne dites rien, Clémy, je suis sûr de mon fait. Et si le sort des élections en décide autrement, pas de problème. Je retournerai à mes premiers dadas, l'écriture et la peinture. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas.
Churchill, par la voix de Stéphane Subé qui s'adressait à sa femme, Clémy, dans le spectacle nos portes. Et c'est ici que se termine cette émission avec ces extraits de lecture que nous avons voulu vous proposer pendant l'année, reproposer ici. Une petite respiration avant de reprendre la saison qui démarre tout prochainement. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec les premières créations de la saison, justement, avec toute l'équipe. À bientôt. Rediffusion de cette émission ce jeudi à 13h30 et le podcast sur demanderaiprogramme.be. Bonne première planche de saison à vous également. Conspiración.